Chers auditeurs, chères auditrices de Mère de Résistance, Radio Galère 88.4, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. J'espère, je vous souhaite tout ce qu'il peut y avoir de meilleur pour cette année. Qu'on commence pas toujours bien, puisque dans le monde aujourd'hui, ça se passe pas très bien. Avec d'une part la guerre en Ukraine qui n'en finit plus. Et puis, toutes les exactions qu'il y a pu y avoir dans le cadre de la guerre en Israël, en Palestine, aujourd'hui, à Gaza. On suit l'actualité régulièrement, on sait ce qui se passe. Inutile de faire des commentaires qui seraient complètement, par ailleurs, superflus à ce sujet-là. Simplement, qu'on espère tous que ça va finir par s'arranger et que la guerre va s'arrêter et qu'il va y avoir des accords qui vont permettre de réparer, si je peux me permettre de dire ça, de réparer ce qui s'est passé, de réparer un petit peu tous les méfaits liés à cette guerre qui n'est pas une bonne guerre. Côté français, on est aujourd'hui dans une période politique plus ou moins mouvementée, avec un remaniement ministériel qui s'annonce. J'ai lu dans le journal aujourd'hui qu'il y avait possibilité d'un nouveau Premier ministre, donc on peut s'attendre à des changements dans la vie politique française. Par ailleurs, face aux troubles actuels, il y a actuellement plusieurs dimensions de changement qui se profilent également sur le plan de la politique européenne, avec l'idée de l'Allemagne d'un retour éventuel à des politiques d'austérité, puisque les pays membres de l'Union européenne vont devoir respecter encore plus les restrictions liées à la nécessité de maîtriser leurs déficits, d'une part, et d'autre part, de maîtriser leurs dettes en rapport à leur produit intérieur brut. Et bien entendu, l'Allemagne préconise des politiques d'austérité qui pourraient, je pense, nous plonger encore davantage dans les difficultés économiques si on les écoutait. Alors même qu'il y a beaucoup d'autres options qui seraient possibles en matière de politique économique. J'espère que nous, Français, allons réussir. J'ai fait suffisamment d'émissions là-dessus à montrer qu'on a notre façon à nous de voir nos politiques économiques afin qu'on ne recommence pas à faire ce qu'on avait fait juste avant l'entrée de la France dans la zone d'intégration monétaire en 2000, de façon juste avant 2000, en plongeant la France dans une politique d'austérité à toute épreuve. Si on recommençait une deuxième fois, je pense qu'on ne s'en sortirait pas cette fois-ci. Et que ce serait à ce moment-là peut-être le grand capitalisme qui prendrait le dessus sur nos économies parce que justement... si on met en place des politiques d'austérité, par ailleurs, pour pallier à beaucoup de choses que l'État ne pourrait plus remplir, ce serait à ce moment-là le secteur privé qui prendrait le dessus. Et quel secteur privé ? Eh bien, tout simplement le secteur des grandes multinationales qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Elles font plusieurs choses. Les propriétaires des multinationales ne sont spécialisés dans rien. Ils s'engouffrent dans les failles dès qu'il y en a. Et donc à ce moment-là, on prendrait le risque de voir une société complètement gouvernée par ces gens-là. Donc sans perspective de construction d'une construction politique qui sous-tendrait une économie rationnelle et proche des territoires. voilà pour mes souhaits pour la nouvelle année, c'est que justement la France fasse preuve d'originalité par rapport au reste de l'Union européenne et ceux qui la gouvernent, notamment je pensais notamment entre autres à l'Allemagne, et qu'elle mette en avant ses politiques territoriales qui peuvent être le support de quelque chose de solide sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, pour peu qu'on se donne la peine de les mettre en avant et de tenir le cap malgré les difficultés. Voilà. Voici donc mes souhaits. Donc c'est donc ça. Et puis bien entendu qu'il y ait la paix dans le monde, que l'année 2024 soit l'année du règlement définitif des conflits dans le monde. Notamment des deux grands conflits qui sévissent actuellement, mais également tous les conflits africains. N'oublions pas que nous, Français, nous avons perdu en grande partie notre influence en Afrique, et qu'aujourd'hui, on n'a plus une position privilégiée. On l'a perdue, notamment lors des derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest, je pense principalement au Mali. Et donc, on n'est plus très bien vu là-bas. Donc, il va falloir qu'on retrouve nos places et qu'on refasse nos marques en Afrique. Et également, je pensais au Moyen-Orient. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de choses qui m'intéressent parce que c'est la première émission de l'année. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. D'abord, je vais vous parler de certaines expositions que j'ai vues dernièrement. Il y a l'exposition Ruines à Lyon, au Musée des Beaux-Arts, au Palais Saint-Pierre, qui est une exposition très intéressante parce qu'elle fait redondance avec toutes les ruines qui sont anciennes, mais également des ruines contemporaines qui proviennent de tous les conflits qu'il y a pu y avoir cette dernière décennie au Moyen-Orient. Dieu sait si elles sont nombreuses. À l'Institut du Monde Arabe, l'année dernière, il y a deux ans, il y avait eu une exposition justement sur les grandes villes arabes où on montrait ces grandes villes on montrait comment ce qu'elles étaient devenues aujourd'hui, des villes complètement en ruine, complètement détruites, et où on essayait de restituer tant bien que mal sous forme d'écran. Dans la salle même où étaient exposées sous forme de fresques géantes sur les murs, les photos de chaque ville du Moyen-Orient touchée, telles qu'elles sont devenues, et des petits écrans vidéo parsemés dans chaque salle rappelaient ce qu'avaient été ces villes autrefois, et montraient des archéologues et des chercheurs en histoire évoquer l'importance de ces bâtiments qui ont disparu et qui sont aujourd'hui en ruine. L'exposition Ruines au Musée des Beaux-Arts au Palais Saint-Pierre nous montre des paysages souvent peints au XIXe siècle, à l'époque romantique et à l'époque de Napoléon Ier également. Donc ça commence à Napoléon Ier et ça finit à la fin du XIXe siècle. Une époque où on a commencé à... Il y a une science qui est née, qui est la science de l'archéologie, où on a commencé à montrer à mettre en avant des ruines et à faire des fouilles archéologiques. Donc en fait, c'est toute la majorité des tableaux qui sont exposés sont des tableaux de l'époque, de cette époque-là, où on sent qu'il y a un grand romantisme, un grand sentimentalisme par rapport aux ruines. Autre chose que je voudrais vous mettre en avant, sont les deux biennales de Lyon, la biennale d'art contemporain d'une part et la biennale de la danse d'autre part. Cette année, dès septembre, ça va être l'art contemporain. Et l'année dernière, en 2023, c'était la danse. Alors une fois c'est la danse, une fois c'est l'art contemporain. Deux disciplines artistiques qui nous laissent réfléchir au devenir de nos temps modernes et au devenir de nos sociétés. Elles nous font beaucoup réfléchir à nos sociétés telles qu'elles sont actuellement. Elles peignent les questionnements que se posent nos différents contemporains. Elles nous montrent qu'elle nous montre les perceptions des uns et des autres. Elles sont très intéressantes. Par exemple, cette année, à la Biennale de la Danse, j'ai vu une pièce de danse de Fia Ménard, qui est une artiste de danse contemporaine, qui est très pertinente. Donc, elle mettait en avant un monument historique qu'elle démantelait de façon à montrer qu'il fallait absolument détruire les grandes statues qui représentent des gens importants de manière symbolique, bien entendu, afin de reconstruire un monde nouveau reposant sur de nouveaux paradigmes. Donc l'idée d'un nouveau paradigme nécessaire est très forte chez Fia Ménard. Elle l'a déjà montré avec une pièce antécédente qu'elle avait dansée il y a 5 ou 6 ans déjà, ça fait déjà longtemps, où elle se montrait complètement engoncée dans du plastique. Et on la voyait évoluer au fur et à mesure que la pièce avançait, se défaisant de ces pièces plastiques. Et à la fin, il n'y avait plus qu'elle, son corps. Et elle nous montrait par là qu'il fallait se débarrasser de certaines choses. Donc moi, j'y avais vu le capitalisme derrière tout ça, ainsi que les multinationales. Puisqu'il y avait beaucoup de sacs plastiques qui composaient son habit de plastique. Et j'avais trouvé très intéressant cette pièce-là. À la fin, elle finit nue au milieu d'un espèce de jardin paradisiaque, une espèce d'Éden, comme si elle se prenait pour Ève, qui, trop habillée, se dénude et met fin au châtiment lié au péché originel. Et c'est très fort chez Fia Ménard, l'idée qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est superflu, qu'il faut finir par se dénuder. Elle démantèle les grandes statues pour en reconstruire des plus petites, ou pour permettre à chacun de se construire sa propre statue. Elle déshabille la société la société de tout ce qui constitue la superstructure ou certains diront la technostructure, pour ne finir que par se retrouver seul face au monde. C'est très intéressant, c'est une idée. Enfin, derrière la danse de Fia Ménard, il y a de l'économie quelque part. À Marseille, il y a eu les instants vidéo qui sont en train de finir, je crois. Quelque chose que je n'expliquerai pas aux Marseillais qui connaissent bien cette manifestation artistique et culturelle qui a lieu tous les ans et qui a des antécédents ailleurs qu'à Marseille, puisque elle est un petit peu partout, notamment dans le monde arabe. Elle se retrouve sur plusieurs sites avec des artistes, des vidéastes issus de différents pays, et notamment il y en avait en Palestine. Alors je ne sais pas si en Palestine ça a eu lieu cette année, ça m'étonnerait, mais peut-être que l'année prochaine, eh bien, il y aura à nouveau des artistes vidéastes qui s'exprimeront, à moins qu'elle ait eu lieu. On en rediscutera la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Cette semaine, j'avais juste envie d'évoquer les choses de manière un peu superficielle, sans trop m'attarder, histoire de donner un aperçu assez général de ce qui se fait un petit peu en France aujourd'hui en matière d'art contemporain et en matière d'art tout court. À Paris, il y a eu plusieurs expositions importantes. Il y a une exposition sur la vie de Zinedine Zidane à la Philharmonie. Et puis il y a eu deux expositions de grands artistes peintres importants qui sont en train de finir. Van Gogh au musée d'Orsay, une exposition exceptionnelle. Et puis une autre exposition qui est une exposition sur Nicolas de Staël qui a fini hier, qui est une exposition qui montre des peintures de Nicolas de Staël, qui un peintre qui fait des choses très belles, qui a fait des choses très belles. Et cette exposition a pris fin hier au musée d'art moderne de Paris, et elle va être reconduite à partir du mois de février à Lausanne en Suisse. Bon à savoir pour ceux qui l'auraient raté à Paris et qui auraient envie de la voir quand même. Au Palais de Tokyo vient de finir l'exposition d'une série d'artistes. Donc là, c'est uniquement de l'art contemporain. Et moi, je parlerai notamment de l'exposition de Lily Renaud-Dewar qui s'appelle « Salut, je m'appelle Lily et nous sommes plusieurs ». Donc il y a deux expositions, une gratuite. Il y avait deux expositions, une gratuite avec un collectif d'artistes où elle partait du livre « Pétrole d'un réalisateur italien très important ». Un réalisateur italien très important, mais je cite pas son nom. Son nom, c'est Pier Paolo Pasolini, tout le monde le connaît, qui a écrit un livre qui s'appelle Pétrole, où déjà il s'insurgeait contre les méfaits du pétrole et de l'argent trop facile pour certains, ainsi que de la pollution. Et Lily Renaud-Dewar, avec un collectif d'artistes grenoblois, a un petit peu arpenté plusieurs pays pour faire soi-disant une enquête sur le pétrole et sur les méfaits de celui-ci un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs écrans vidéo, ça m'a fait beaucoup penser aux instants vidéo de Marseille, à la Friche Belle de Mai, qui montre ce collectif d'artistes évoluait au gré de ses réalisations, une pièce de théâtre, mais également de la chanson, et puis beaucoup de discussions autour justement de l'idée de révolution, l'idée d'action contre les politiques qui ne plaisent pas à tout le monde. À l'époque où Lily Renaud-Dewar tournait ses vidéos avec son collectif d'artistes, il y avait d'abord les Nuits debout, puis après il y a eu les Gilets jaunes. Donc ça fait redondance un petit peu avec tout cet activisme politique qui est quand même un peu impuissant par rapport aux forces étatiques qui savent réprimer quand c'est le moment. Et donc en fait, elle était intéressante cette exposition parce que il n'y en a pas eu beaucoup des artistes qui ont planché sur toute cette période où il y a eu pas mal d'activisme politique. Et on en a beaucoup parlé dans les journaux, il y en a même qui ont monté des groupes politiques qui sont allés jusqu'à se présenter aux élections, et notamment il y en a qui se sont présentés aux élections présidentielles, mais dans les musées d'art contemporain, on n'en a pas beaucoup vu, et cette exposition donnait à les voir. Donc pour ceux qui auraient raté, allez au Palais de Tokyo, à la librairie, pour feuilleter les livrets d'exposition qui ont été conçus. C'est très intéressant. Et son groupe s'appelle Gruppo Petrolio. Elle a choisi l'action anti-pétrole, en référence, bien entendu, à ce livre de Pier Paolo Pasolini. Ça fait redondance avec une autre époque où il y avait beaucoup d'activisme politique, qui est l'époque de Pasolini, où celui-ci, d'ailleurs, un gay italien, s'insurgeait contre un certain nombre de choses et d'ailleurs a bien été, il faut bien le dire, assassiné sur une plage. Donc voilà. L'exposition principale, qui elle était payante, de Lily Renaud-Dewar, montrait, alors celle-ci elle était très intéressante aussi, elle montrait des hommes. C'est-à-dire que Lily Renaud-Dewar a passé plusieurs nuits à interviewer plusieurs hommes différents, tous gays et donc homosexuels. Que des hommes. Et elle les interview à chaque fois. L'interview dure presque une heure pour chaque homme. Et elle passe la nuit avec. C'est-à-dire qu'en fait, derrière tout ça, il y a bien sûr, c'est un petit clin d'œil au métier de la prostitution. C'est Lily, artiste, qui se donne à voir comme une prostituée qui passerait des nuits avec des hommes tous différents les uns des autres. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les interviewe, et elle les interviewe chaque fois dans une chambre d'hôtel différente. Et donc, dans l'exposition, elle a restitué la chambre de chacun avec le lit et ce qu'il y a autour du lit, les commodes, la lampe de chevet, etc. Et au-dessus de chaque lit, il y a un écran géant avec la personne qui est interviewée. Donc, elle parle en français et il y a une traduction en anglais pour que tout le monde comprenne, même les visiteurs étrangers puissent comprendre le monologue de chacun. Et chacun parle, ce sont des récits de vie, hein. C'est la technique du récit de vie. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas de questions, l'artiste n'est pas présente en tant qu'intervieweuse, elle ne pose aucune question, et c'est simplement des récits de vie. Chacun raconte sa vie telle qu'elle est en tant que gay à Paris, dans le Paris des années 2020, pardon. Donc voilà, c'est une véritable cette exposition-là est une véritable intrusion à caractère sociologique dans le monde de l'homosexualité masculine et parisienne. Attention, c'est pas n'importe où, c'est principalement parisien, et elle est très intéressante puisque en écoutant ces différents hommes qui sont issus de différentes générations, qui donc ont vécu des choses tous différents les uns des autres par rapport à leur état, est une véritable. Je pense que c'est, enfin, son exposition devrait être permanente, c'est-à-dire qu'on devrait la poser quelque part, à défaut de la poser dans une salle ou dans un lieu quelconque. Elle pourrait au moins être sur Internet, retranscrite sur Internet, parce qu'elle apprend beaucoup, et je pense que ça pourrait aider beaucoup de sociologues ou anthropologues à comprendre le monde de notre société actuelle et ses aspirations. Moi, j'ai écouté jusqu'au bout l'interview du premier, qui est quelqu'un qui est né dans les années qui est né dans les années 50, et donc dans les années 70, il était jeune, il a vécu le début de l'homosexualité masculine, enfin de la revendication gay à Paris notamment. Et il a vécu ensuite l'époque SIDA, donc il raconte tout ça, c'est très intéressant. Et puis après, j'en ai écouté une autre d'un homme un petit peu plus jeune, qui lui est réalisateur, metteur en scène, qui a bien réussi sa vie, il a une trentaine d'années. Donc lui, il voit encore les choses différemment. Mais il vient de Martinique, je crois, ou de Guadeloupe, ou enfin il vient d'un territoire d'outre-mer, et il explique très bien des choses que nous on voit pas toujours, à savoir que dans le monde des territoires d'outre-mer d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un petit peu, quelque peu délaissés. Il montre, en parlant de son grand-père par exemple, que pendant les guerres de décolonisation, on s'est beaucoup servi des gens qui habitaient dans les territoires d'outre-mer pour les faire aller au front, comme si c'était à nouveau une autre forme de colonisation, et que cette forme de colonisation-là perdure encore aujourd'hui. Et le jeune homme qui parlait, qui était réalisateur, le montrait très bien. Voilà. Il parlait d'une espèce de schizophrénie qu'ont les gens qui ont vécu dans les territoires d'outre-mer, quand ils arrivent en métropole en pensant qu'ils sont français, ressentent une différence par rapport à ce que vivent les autres français de métropole et de souche. Et c'est très intéressant à écouter. En fait, son exposition est un véritable miroir de la société française. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on ne parlait pas du lesbianisme, et pourquoi il n'y avait que l'homosexualité au masculin qui était montrée. Et je me suis laissé dire que parce que l'artiste Lily Reynaud-Dewaere d'abord doit aimer les hommes, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a le fait que il y a peut-être quelques tabous à accepter cette liberté qu'on laisse aux hommes de vivre leur homosexualité. On n'accepte pas qu'il y ait autant de liberté chez les femmes, tout simplement parce que dans notre société, les femmes ne sont pas traitées exactement comme les hommes. Il y a une différence au niveau des salaires, il y a une différence au niveau des carrières. Ce qu'on accepte pour les hommes, on ne l'accepte pas toujours chez les femmes. Et bien pour l'homosexualité, c'est pareil. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Peut-être qu'un jour, il y aura la même chose avec des femmes homosexuelles qui sont mariées, qui ont une vie sociale, qui sont coquettes, qui sont jolies et qui ont bien réussi leur vie professionnelle, elles sont beaucoup plus rares ou alors elles se montrent moins parce que bah, c'est tabou. Voilà. Très bien. Eh bien, c'était pour la première partie de mon émission. J'avais envie de vous parler un petit peu d'art et de vous parler un petit peu de ce qui se passait un petit peu dans le... Dans le monde, il y a, on est dans un monde qu'on aurait envie de sauver, un monde qui devient, qui aujourd'hui est moins beau qu'avant. Il faut bien le reconnaître, c'est plus difficile. Il y a l'inflation, on voit moins bien les choses, on voit moins les choses aussi belles qu'autrefois, quoi. Et c'est dommage. Je vais vous faire écouter une musique que j'aime bien, puisque aujourd'hui on en est à. On a dit je me laisse aller et je vous fais des choses qui me plaisent. On va et je fais pas une émission aussi construite que d'habitude. Je voudrais vous faire écouter une chanson des Chiens de Navarre, qui est un groupe musical qui est stéphanois. Je vous le fais écouter. En fait, la chanson des Chiens de Navarre. Ici s'appelle Dieu. Je vous laisse écouter cette chanson.
Les gens raisonnables se lèvent toujours à l'heure, ils n'oublient jamais leur cartable, font bien gaffe de rien abîmer. Ils mettent toujours une ou deux pièces de plus dans les horodateurs, alors ça énerve les autres qui les traitent souvent de pédé. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ne font jamais comme bon leur semble. Ils ne traitent personne de minable, ne s'agacent pas dans leur voiture. Et si jamais quelqu'un les blâme, même s'ils savent qu'ils ont raison, pour ne pas risquer l'incartade, ils s'excusent ou bien ils s'en vont. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. La tête des mauvais jours et des années insupportables passées à se faire oublier. Ils font toujours tout dans les règles, et quand les règles sont injustes, ils frappent du poing sur la table et se rassoient pour se calmer. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ont plein de doutes, trop de soucis, donc moins de souvenirs dans leur sac à la fin de leur vie.
Je m'excuse envers mes auditeurs, en fait, Je me suis trompée. J'avais trop envie de vous parler des chiens de Navarre parce que les chiens de Navarre, c'est une troupe de théâtre. Une troupe de théâtre qui est exceptionnelle, qu'il faut absolument aller voir. Si un jour ils passent sur Marseille, allez les voir, puisque je voulais vous parler aujourd'hui de choses qui me plaisaient, donc j'ai voulu vous parler des chiens de Navarre. Et je me suis trompée avec un groupe de musique, celui qui vient de chanter la chanson que j'ai passée. Parce que les noms se ressemblent un petit peu. Et je vous donnerai le nom du groupe tout à l'heure. Les Chiens de Navarre, c'est une troupe de théâtre. Ils sont exceptionnels. C'est du comique, même du burlesque. Mais c'est vraiment bien. On ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Et puis, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ri. Je suis allée les voir début décembre et j'ai vraiment apprécié, quoi. Aller les voir, je répète, ils ont fait plein de choses. La dernière pièce de théâtre, c'est La vie est une fête. Celle-ci, elle est exceptionnelle, elle est super. Il parle de plein de choses contemporaines sur la société d'aujourd'hui, de politique, d'économie, d'écologie, un peu de tout. Et c'est vraiment très, très bien, quoi. Voilà. Ensuite, pour en revenir à la chanson, eh bien, c'est Mickey 3D, bien entendu, dont je voulais parler. Mickey 3D, c'est un groupe musical qui nous vient de Saint-Étienne. Qui commence déjà à être vieux et qui a bien fait ses preuves. Toutes leurs chansons, Tu vas pas mourir de rire, par exemple, c'est un tube qui est très connu et qui est issu des Mickey 3D. C'est eux qui l'ont fait. Et là, il y en a plein d'autres. En écoutant leur album sur n'importe quel logiciel vous les entendrez et je pense que vous allez apprécier le dernier album notamment est pas mal. Voilà. Donc je crois qu'ils sont nés dans les années 2010 à Saint-Étienne, dans la ville de Saint-Étienne dont on parle pas très souvent mais qui est une ville super aussi. Voilà. Eh bien, on va continuer. Donc, j'avais choisi, comme j'en suis toujours, à vous parler de choses que j'aime. J'ai choisi ce soir de vous parler d'un livre que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup. J'avais envie de le partager un peu avec vous. Voilà. On va en parler. C'est André Gide, c'est les nourritures terrestres. J'ai trouvé que cet auteur-là que je suis en train de découvrir était très bon. Il y a en lui une grande aspiration à de la pureté et au désir d'un monde meilleur. Voilà. Et il y a des phrases dedans que j'ai jamais vues ailleurs, qui sont d'une très très grande qualité. Il s'est inventé un être supérieur à lui, mais qui en même temps est lui-même. Un être qui s'appelle Nathanaël, qui est un être parfait. C'est son ange gardien ou c'est son âme. Et puis cet ange gardien, il lui parle tout le temps comme pour qu'il l'aide à toujours le ramener vers quelque chose de meilleur. Lui qui n'est autre qu'un homme, qu'un être humain, et qui ne peut pas forcément être parfait. Et donc on sent une aspiration chez lui à la perfection qui frise presque la crédulité. Alors, dans son livre, il nous parle beaucoup des jardins. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler, de vous citer le passage où il parle des jardins, parce que ce sont des passages merveilleux, où on sent que, André Gide, non seulement écrivait très bien, mais en plus était aspiré par un profond désir d'aider le monde à devenir meilleur en donnant envie aux gens de retourner à une certaine forme de paradis originel. Quand on parle d'un paradis, on pense au jardin. Eh bien, André Gide nous parle de plusieurs jardins. Alors, je vais vous lire ce passage avec des phrases qui sont magnifiques. Et il parle à Nathanaël, son ange gardien. « Nathanaël, je te raconterai les plus beaux jardins que j'ai vus. À Florence, on vendait des roses. Certains jours, la ville tout entière embaumait. Je me promenais chaque soir aux Cassines et le dimanche au jardin Boboli sans fleurs. » À Séville, il y a, près de la Giralda, une ancienne cour de mosquée. Des orangers y poussent par places, symétriques. Le reste de la cour est dallé. Les jours de grand soleil, on n'y a qu'une petite ombre restreinte. C'est une cour carrée, entourée de murs. Elle est d'une grande beauté, je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Hors de la ville, dans un énorme jardin clos de grilles, croissent beaucoup d'arbres des pays chauds. Je n'y suis pas entrée, mais à travers les grilles, j'ai regardé. J'ai vu courir des pintades et j'ai pensé qu'il y avait là beaucoup d'animaux apprivoisés. Que te dirais-je de l'Alcazar, jardin semblant de merveilles persanes? Je crois, en t'en parlant, que je le préfère à tous les autres. J'y pense en relisant Hafiz. Apportez-moi du vin, que je tâche ma robe, car je chancelle d'amour et l'on m'appelle sage. Des jeux d'eau sont préparés dans les allées. Les allées sont dallées de marbre, bordées de myrtes et de cyprès. Des deux côtés sont des bassins de marbre où les amantes du roi se lavaient. On y voit d'autres fleurs que des roses, des narcisses et des fleurs de laurier. Au fond du jardin, il y a un arbre gigantesque où l'on se figure un bulbule épinglé. Près du palais, d'autres bassins de très mauvais goût rappellent ceux des cours de la résidence à Munich où il y a des statues faites tout en coquilles. C'est dans les jardins royaux de Munich que j'allais en printemps goûter les glaces à l'herbe de mai près d'une obstinée musique militaire. Un public inélégant mais mélomane. Le soir s'enchantait de pathétiques rossignols. Leur chant m'alanguissait comme celui d'une poésie allemande. Il est une certaine intensité de délices que l'homme peut à peine dépasser, et non sans larmes. Les délices même de ces jardins me faisaient presque douloureusement songer que j'aurais aussi bien pu être ailleurs. C'est pendant cet été que j'appris à jouir plus particulièrement des températures. Les paupières sont admirablement aptes à cela. Je me souviens d'une nuit en wagon que je passais devant la fenêtre ouverte, uniquement occupée à goûter l'attouchement du souffle plus frais. Je fermais les yeux, non pour dormir, mais pour cela. La chaleur avait été durant tout le jour étouffante, et ce soir, l'air encore tiède, pourtant, paraissait frais et liquide à mes paupières enflammées. À Grenade, les terrasses du Généralif plantées de lauriers roses n'étaient pas fleuries lorsque je les vis, ni le Campo Santo de Pise, ni le petit cloître de Saint-Marc que j'aurais souhaité plein de roses. Mais à Rome, le Monte Pincio, je l'ai vu dans la plus belle saison. Durant les après-midi accablants, on y venait chercher de la fraîcheur. Demeurant auprès, je m'y promenais chaque jour. J'étais malade et ne pouvais penser à rien. La nature me pénétrait. Aidée par un trouble des nerfs, je me sentais parfois plus à mon corps de limite. Il se continuait plus loin ou parfois voluptueusement devenait poreux comme un sucre. Je fondais. Du banc de pierre où j'étais assis, l'on cessait de voir Rome qui m'exténuait. On dominait les jardins borghèses dont le contrebas m'était au niveau de mes pâles cimes un peu lointaines des plus hauts pins. Ô terrasse, terrasse d'où l'espace s'était lancé. Ô navigation aérienne. À Malte, dans les jardins du résident, je vins lire. Il y avait à Città Vecchia un bois très petit de citronniers. On l'appelait Il Boccetto. Nous nous y plûmes et nous mordîmes des citrons mûrs dont la saveur première est d'une acidité intolérable, mais qui laisse après dans la bouche un arôme rafraîchissant. Nous en avons mordu aussi à Syracuse, dans les cruelles Latomies. Dans le parc de la Haye circulent des daims, point trop sauvages. Du jardin d'Avranches, on voit le mont Saint-Michel et les sables lointains au soir semblent une manière embrasée. Il y a de très petites villes qui ont des jardins charmants. On oublie la ville, on oublie son nom, on souhaite revoir le jardin, mais on ne sait plus y revenir. Donc là, il y a plusieurs jardins et comme vous pouvez le voir, ils mélangent les genres. Un coup, on entend un coup, on entend parler d'un jardin qui est au Moyen-Orient, et puis après, il revient à Avranches, en Normandie, vers le Mont-Saint-Michel. Après, il va à Malte, après, il va à Munich. Donc, c'est comme s'il essayait de nous montrer, en fait, c'est un appel désespéré de André Gide, qui nous parle de ses nourritures terrestres, un appel désespéré vers la beauté du monde. Et il nous amène à penser à... encore davantage, même si on y pense quand même beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui concerne l'écologie, un retour vers une aspiration vers plus d'écologie et d'environnemental. Et André Gide, déjà à son époque où on ne parlait pas encore de tout ça, il lançait comme un appel vers les générations futures qui sont les nôtres aujourd'hui, pour dire regardez la beauté du monde, où que vous alliez sur n'importe quel continent et dans n'importe quelle ville, il y a un beau jardin. Et d'ailleurs son livre s'appelle Les nourritures terrestres, c'est pas anodin. Si son livre s'appelle Les nourritures terrestres, c'est tout simplement parce que il fait référence ici, lui qui est quand même, ses livres sont très religieux, très empreints de christianisme, et parce que il évoque toujours derrière l'idée de Dieu. Donc ici il y a l'ange Nathanaël qui n'est autre que son double psychique auquel il fait toujours référence. C'est en quelque sorte son meilleur ami, qui est irréprochable, qui est un être parfait et qui l'aide toujours à devenir meilleur et à ne pas tomber dans le mal. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il sent bien que lui-même, et il le dit lui-même dans le livre, qu'il n'est pas tout bon, qu'il y a beaucoup de mauvais en lui, mais heureusement il y a toujours Nathanaël qui est là, qui est son âme, qui le sauve. Et c'est son meilleur ami, un petit peu comme l'ange Raphaël a pour meilleur ami Tobias. Et donc, les nourritures terrestres, pourquoi ? Ça fait une référence au christianisme, puisque le christianisme, ce n'est pas autre chose que l'apologie de l'ici-bas et le maintenant, qui nous montre que la nature est éternelle, qu'elle est inépuisable si on ne l'abîme pas. Ce n'est rien d'autre, la scène n'étant rien d'autre qu'une apologie justement du festin, le festin perpétuel auquel tous les convives sont invités, avec un partage de nourriture, une nourriture qui se renouvelle toujours. C'est de l'économie de l'abondance en quelque sorte. Ce n'est rien d'autre que la nature qui est magique. Eh bien, André Gide ici nous fait une véritable apologie du vrai christianisme, du christianisme des premiers temps, des premiers chrétiens, où on cherchait à célébrer la nature et l'abondance. Dans un monde où certains grands de ce monde, les dictateurs, et notamment à l'époque il s'agissait d'Hérode, du roi Hérode, essayaient, là où il y avait de l'abondance, à créer de la pénurie, chez le peuple pour pouvoir le diriger et le commander. Et donc André Gide devait être quelqu'un de très intelligent parce qu'il avait compris tout ça. Donc je continue un petit peu ma lecture. Donc je rappelle, c'est dans ce passage de son livre Les nourritures terrestres, il parle de plusieurs jardins qui nous rappellent l'Éden originel. Je rêve au jardin de Mossoul, on m'a dit qu'ils sont pleins de roses, ceux de Nashpour, Omar les a chantés, et Hafiz les jardins de Shiraz. Nous ne verrons jamais les jardins de Nashpour. Mais à Biskra, je connais les jardins de Wardi, des enfants y gardent les chèvres. À Tunis, il n'y a pas d'autre jardin que le cimetière. À Alger, au jardin des Saïds, des palmiers de toute espèce, j'ai mangé des fruits que je n'avais auparavant jamais vus. Et de Blida, Nathanaël, que te dirais-je ? Ah, douce est l'herbe du Sahel, et tes fleurs d'oranger et tes ombres, suaves les odeurs de tes jardins. Blida, Blida, petite rose, au début de l'hiver, je t'avais méconnue. Ton bois sacré n'avait de feuilles que celles qu'un printemps ne renouvelle pas. Et tes glycines et tes lianes semblaient des sarments pour la flamme. La neige descendue des montagnes t'approchait. Je ne pouvais me réchauffer dans ma chambre et moins encore dans tes jardins pluvieux. Je lisais la doctrine de la science de Fichte et me sentais redevenir religieux. J'étais doux et je disais qu'il faut se résigner à sa tristesse et je tâchais à faire de tout cela de la vertu. Maintenant, j'ai secoué là-dessus la poussière de mes sandales. Qui sait où le vent l'a portée ? Poussière du désert où j'ai rôdé comme un prophète. Pierre trop aride et fritée, à mes yeux, elle fut brûlante car le soleil l'avait énormément chauffée. Dans l'herbe du Sahel, à présent que mes pieds se reposent, que toutes nos paroles soient d'amour. Blibda, blida, fleur du Sahel, petite rose, je t'ai vue tiède et parfumée, pleine de feuilles et de fleurs. La neige de l'hiver avait fui dans ton jardin sacré, luisait mystiquement ta mosquée blanche et la liane ployait sous les fleurs. Un olivier disparaissait sous les guirlandes qu'une glycine lui faisait. L'air suave apportait le parfum qui s'élevait des fleurs d'oranger et même des mandariniers grêles embaumés. Du plus haut de leurs hautes branches, les eucalyptus délivrés laissaient tomber leur vieille écorce. Elles pendaient, protection usée, comme un habit que le soleil rend inutile, comme ma vieille morale qui ne valait que pour l'hiver. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas vous lire tout le livre d'André Gide, mais c'est un livre intéressant. Parmi vous, certains l'ont déjà certainement peut-être lu. Il parle ensuite de la mer. Enfin voilà, c'est un hymne à la nature et à la vie. Voilà. Bien, nous allons terminer cette émission maintenant. Je vous ai fait découvrir un groupe qui est sympa. Un nouveau groupe de musique. J'espère bien vous en faire découvrir d'autres les prochaines fois. Donc là, il s'agissait de Mic et 3D. Merci de les avoir écoutés. Je pense que si vous le souhaitez, je pense que ça peut être intéressant d'écouter une deuxième musique de Mic et 3D, puisque ils sont pas mal. On va écouter Rallonge tes rêves, ça va bien, avec André Gide et les nourritures terrestres. Chers auditeurs, chères auditrices, encore une fois, une excellente année 2024, avec toutes ces belles choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et toutes les belles choses que vous allez découvrir et que vous allez faire partager aux autres aussi. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Tu l'imaginais pas comme ça, la quarantaine quand t'étais petit. C'est la vie. Conseillère du Pôle emploi, la même chemise pendant des mois, la fin de tes rêves, ton histoire avait mal tourné. À l'école déjà, tu dormais, les yeux fixés sur le plafond, les araignées criaient ton nom. Là-bas, au fond de tes rêves, 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 tu l'imaginais pas comme ça, la cinquantaine quand t'étais le roi du parking. T'avais la plus belle mobilette, toutes les filles te montaient la tête pour que tu les emmènes loin. Rendez-vous au contrôle technique, il était une fois l'Amérique. C'est la traversée de l'Atlantique qui s'arrête au périphérique. Là-bas, au bout de tes rêves, au bout de tes rêves, au bout de tes rêves, au bout de tes rêves. Pas comme ça, la soixantaine quand t'étais petit, c'est la vie. Adieu 1963, Martin Luther King n'est plus là. Au fond de tes rêves, les yeux fixés sur la corniche, t'essayes de croire que tu t'en fiches. C'est pas 1968, mais y'a des tags sur des affiches. Là-bas, rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves.